Qu'est-ce qui vous a mené ici, chasseur de trésors?
Et bienvenue dans Cadenas Directionnels et Lampe UV. Jessica Leb avec vous jusqu'à 20h30. Tout nouveau rendez-vous de l'été. Bah, nouveau. Ça y est, ça fait 4 semaines qu'on s'installe sur les ondes de CKRL le mardi soir pour vous parler des jeux d'évasion, industrie grandissante au Québec et ailleurs dans le monde d'ailleurs. Et pour vous en parler, bah, chaque semaine, on décrypte un volet de cette création de jeux d'évasion. On a parlé de comment on conçoit les énigmes, les scénarios pour vous plonger dans une aventure totalement immersive avec des propriétés de jeu. La semaine dernière, on parlait des décors que vous allez rencontrer, que ça soit à Québec ou ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler du métier de maître de jeu, celui qui va vous accompagner tout au long de votre aventure d'une heure généralement, mais ça peut être moins aussi. Et pour en parler, je ne suis jamais seule. Marc Raymond est toujours là pour m'accompagner. Bonjour Marc.
Hola Jessica.
Marc, pour commencer, un maître de jeu, donc je vais juste rappeler encore une fois pour ceux qui nous rejoignent, un jeu d'évasion, qu'est-ce que c'est? On a une mission à accomplir en 60 minutes généralement. Ça peut être moi, ça peut être un peu plus aussi. Ça peut être une mission comme désamorcer une bombe en une heure, éradiquer une pandémie de zombies, vous évader d'une prison. Ça, c'est des thèmes assez simples, assez classiques, mais on l'a vu au fur et à mesure de ces émissions. L'imagination des concepteurs est la limite et ça peut aller très très loin dans les aventures. Et pour nous accompagner, quand on arrive avec notre équipe constituée de notre famille, nos amis, nos collègues de travail, on a tout de suite un maître de jeu qui nous accueille une fois qu'on a réservé notre jeu. Alors, quel est le rôle du maître de jeu, Marc?
Bon, donc en fait, le maître de jeu, ça va être la personne qui, avec les yeux rivés sur son écran de surveillance, va veiller au bon déroulement du jeu. Donc, c'est lui qui va nous donner un coup de pouce si on a besoin d'aide pour si on est bloqué sur une énigme. Le maître de jeu va avoir un rôle quand même assez important dans l'appréciation du jeu d'évasion. Parce que pendant toute la durée de l'activité, habituellement, ça va être votre seul contact extérieur. Mm-hmm. Ça va être la personne à qui vous allez parler si vous avez un problème. Donc, il y a des chances que vous lui parliez, à moins que vous soyez très, très bon, puis que vous n'ayez pas besoin d'indices. Ça peut arriver.
Il ne faut pas en avoir peur, c'est ça qu'on vous dit. Le maître de jeu est souvent votre allié.
Oui, il est toujours là pour vous aider. T'sais, il ne vous enverra pas sur des fausses pistes. Techniquement, il ne devrait pas... Il ne devrait pas vous nuire.
Et pour cette communication, alors, comment se passe-t-elle pendant le jeu?
Ben, ça peut passer par divers canaux. Habituellement, dans les classiques, il va y avoir les walkie-talkies, les téléphones. Ça peut être en personne qui va rentrer dans la salle ou rester derrière la porte puis il va crier au travers de la porte. Ça peut être par texte via un écran fixé au mur. Il n'y a pas vraiment de limite. Les créateurs ont de bonnes idées souvent là, pour...
trouver cette interaction.
Voilà. Fait que les méthodes de communication, en fait, peuvent être strictement utilitaires. Donc, je suis bloqué, donne-moi un indice, merci, bonsoir.
Donc ça, c'est le joueur qui le demande.
C'est ça, le joueur le demande ou le maître de jeu se rend compte que le joueur est bloqué, l'appelle, dit hey, « Salut, man, t'as besoin d'un indice. » Et voilà. Ou ça peut être carrément immersif aussi, tout dépendant de la façon que c'est amené. Donc, le moyen, comme on disait, plus couramment utilisé, le walkie-talkie, dans un scénario médiéval, ça sera pas super immersif. Mais dans un scénario d'enquête policière, ben, ça passe super bien. Puis dans les deux cas, ben, tu vas recevoir ton indice exactement de la même façon.
Et ça participe définitivement à l'immersion, comme on disait, parce qu'on se sent peut-être plus policier avec un walkie-talkie. Puis en médiéval, ben, on va peut-être chercher un autre moyen pour faire intervenir le maître de jeu. On va le voir avec quelques exemples à travers cette émission.
Puis dans le même ordre d'idée, ben, l'impact sera pas le même si c'est Popol, ton écuyer, ou le sergent Serge qui donne un indice que si c'est juste un employé de compagnie de jeu d'évasion qui le fait. Puis pourtant, ben, il va te donner exactement la même information. Fait que la manière d'entrer en contact avec le maître de jeu, mais surtout sa façon de nous répondre, va avoir un impact beaucoup plus grand que juste le fait de nous débloquer sur un problème. Mmh. Et c'est, en plus, ça, c'est juste une partie de son travail.
On va le voir avec nos invités aujourd'hui. Merci Marc pour cette présentation. Et on a les jeux d'évasion bien représentés aujourd'hui à Québec parce qu'on a invité 4 des 6 entreprises de jeux d'évasion présentes en ville. Alors on commence cette présentation du métier de maître de jeu dans des jeux d'évasion avec Alex Saint-Jacques qui travaille chez Sauf qui peut. Il est aussi gérant, donc il est gérant et maître de jeu. Avant tout, c'est aussi un accro. Il a fait près de 90 salles en tant que joueur et il est maître de jeu depuis presque un an maintenant chez Sauf qui peut, qui est situé sur le boulevard Charest, je le rappelle. Et c'est un métier qui complète sa vraie carrière de DJ animateur et technicien en audiovisuel. Bonjour Alex.
Bonjour.
Pour commencer avec ta présentation à toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être maître de jeu?
Moi en fait là, je tripe jeu d'évasion, je l'avais fait environ une vingtaine avant d'être maître du jeu. J'ai toujours aimé le côté animation également, là, donc animer une foule, animer un groupe de personnes. Donc je voulais également transmettre ma passion pour les jeux d'évasion. Je crois que des fois, les gens qui font un jeu d'évasion, ils n'ont pas nécessairement la piqûre tout de suite. Donc, je voulais évidemment là, essayer de leur donner la piqûre à eux aussi, là, afin qu'ils apprécient le concept et qu'ils aillent faire à la fois nos salles, mais les salles des autres entreprises qui sont à Québec.
Parce que quand on est accro, au bout d'un moment, on sort de l'entreprise.
On les fait tous.
Exactement. En face de toi, Samy Girard, elle est maître de jeu chez À Double Tour depuis 2018, à temps partiel quand elle est à l'université, mais à temps plein pendant les périodes fortes, c'est-à-dire l'été et le temps des fêtes. Elle est étudiante en théâtre et dès qu'elle a mis le pied à Double Tour, elle a eu le coup de foudre en jouant là-bas, ce qui lui a donné envie d'appliquer pour l'été. Elle n'a que 5 jeux à son actif, mais elle me dit que c'est parce qu'elle est débordée par À Double Tour et par sa carrière en théâtre. Bonjour Samy.
Allô.
Pour vous montrer les profils très différents, c'est ça, on a autant des gens qui sont très accros aussi en dehors de leur métier, puis d'autres qui, comme toi, se consacrent corps et âme au métier de maître de jeu. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie? J'ai donné un peu l'idée, mais raconte-nous plus précisément, qu'est-ce que t'aimais dans l'idée d'être maître de jeu?
J'ai fait, je suis au baccalauréat en théâtre, puis j'ai fait de la mise en scène, puis de la scéno, puis quand je suis rentrée à Double Tour, quand mes amis m'en ont parlé, on a fait le jeu, puis j'ai eu un gros coup de foudre là, pour les décors, l'ambiance. J'ai trouvé que c'était poussé, puis 2 semaines après mon premier jeu d'évasion là-bas, j'ai su qu'ils cherchaient des maîtres de jeu. Donc, j'ai pas pu m'empêcher là, d'aller postuler. J'avais déjà un travail d'été, puis je suis partie.
Ça a pas traîné.
Je suis rentrée à Double Tour. Là. J'avais vraiment envie de faire des choses comme ça, là, de l'immersion, des personnages. Puis l'équipe avait l'air vraiment sympathique, fait que j'ai appliqué.
C'est la différence entre Sauf qui peut ici représenter et À Double Tour, c'est qu'on n'est pas maître de jeu de la même façon dans vos deux entreprises respectives. Chez Sauf qui peut, par exemple, on n'a pas forcément la notion de personnage. Le maître de jeu est là pour donner les règles, accompagner, donner les indices, mais vous n'incarnez pas de personnage nécessairement.
Pas de personnage, mais des fois quand on n'est pas trop débordé par nos 6 salles en même temps, on aime se faire une voix particulière pour chacune des salles, là, se donner un genre à la limite là, pour chacune des salles qu'on donne. Exemple, le secret d'Andera, parce que c'est une salle un peu égyptienne. On essaie de faire une voix un peu comme si c'était nos parents qui parlaient, les parents des joueurs qui leur parlaient pour leur donner un indice faire comme si eux avaient vécu des choses puis voulaient leur enseigner là, aux gens. Donc on essaie de prendre une petite voix particulière pour chacune des salles quand on a l'occasion, évidemment.
Parce que vous vous rendez compte que ça fait la différence auprès des joueurs quand ils sont en train de jouer, alors?
Ah oui, définitivement. Définitivement. On se base beaucoup sur l'immersion. Nos salles sont très immersives là, pour plusieurs raisons, mais on essaie vraiment de pousser le tout là, au maximum là, avec justement soit la voix ou soit les indices qui sont personnalisés au scénario.
Chez À Double Tour, Samy, vous incarnez un personnage en tant que maître de jeu. Toi, en théâtre, j'ai envie de dire, ça a l'air facile parce que t'es habitué. Est-ce que c'était ça qui t'attirait aussi?
Je me spécialise pas en jeu, aucunement. C'est vraiment plus la mise en scène, la dramaturgie. Donc, c'est plus le côté immersif des décors puis de tout le travail de mise en scène puis de te faire sentir dans un monde. Donc, ça m'appelait du théâtre, mais pas nécessairement de mon côté du jeu. Parce que ça, c'est pas dans mes grandes forces, c'est pas là-dessus que je pousse. Par contre, oui, on fait des personnages, fait que c'est pas que c'est plus simple. Pour moi, on a beaucoup plus de gens là, qui sont à l'aise en improvisation. On n'est pas tous comme ça, mais on adore là, vraiment aller animer. C'est plus le côté animateur que jeu. C'est la relation qu'on va établir avec les clients de par les personnages. C'est ce qu'on va aller chercher.
Mm-hmm. Vous l'avez dit tous les deux, d'ailleurs, animer des gens, là, c'est ce qui vous met en commun dans votre travail. Est-ce que les gens jouent le jeu avec vous? Parce que c'est bien beau de faire le personnage, mais vous parlez à des adultes qui ne propulsent plus cette imagination aussi loin. Donc peut-être qu'eux, ils veulent juste résoudre les énigmes, puis c'est tout. Je sais, sauf qui peut, Alex?
J'ai eu quelques groupes qui ont vraiment joué le jeu, comme je pense notamment dans notre salle du bar clandestin, parce que ça se passe au bout des années 30, des années 40. Il y a des groupes qui se sont habillés, comme dans les gens des années 40. Donc il y en a un groupe dans le Secret d'Andera dernièrement, un monsieur qui s'est habillé en Indiana Jones. C'est très cool de voir les gens qui embarquent comme ça, mais tu sais, plus souvent que ça, là, les gens embarquent pas tant que ça au niveau du personnage, au niveau du scénario, mais elles veulent plus donc faire des énigmes et sortir ou atteindre l'objectif.
Mais ne serait-ce qu'en vous répondant en parlant au personnage ou à la voix que vous incarnez, c'est ça, ils essaient pas de jouer avec ça?
Un peu. Des fois, j'ai des groupes qui nous demandent des indices en disant, exemple, salle de commande ici, le vaisseau spatial, ou salle de commande ici, le bar clandestin. Donc, fois les gens qui aiment justement jouer le rôle de leur salle, on aime bien ça.
Et du côté d'A Double Tour, Samy, toi, est-ce que... Parce que là, vous êtes le personnage, vous êtes à fond dedans. Donc, peut-être que des fois, quand c'est le premier jeu d'évasion, ils vous regardent du genre, est-ce que moi aussi, je dois embarquer là-dedans?
Je pense que le fait qu'on vienne faire l'accueil en personnage, puis qu'on se donne quand même notre petit début dans chaque mission, on essaye, en tout cas moi, je pense que beaucoup de mes collègues aussi, on essaye d'embarquer le joueur avec nous, même si c'est la première expérience ou pas la première. On va le sentir quand certains joueurs sont des habitués, ils veulent rentrer, ils veulent finir la salle. Eux, ils sont là pour sortir en une heure. Sauf que souvent, c'est notre petit plaisir là, d'aller chercher cette complicité-là puis de les embarquer dans l'histoire avec nous. Donc, on donne des noms de code, on essaye de souvenir des noms, donner des petits surnoms aux personnes, de vraiment avoir un lien concret avec le personnage, dépendamment de la salle.
Puis il faut aussi s'adapter aussi avec la clientèle. Tout dépendait si c'est sa première fois, s'il est habitué. Tu sais, je parle aussi au niveau des consignes, qu'au niveau des indices qu'on donne, qu'au niveau du service qu'on leur donne. Oui, il faut que ça soit excellent, mais toujours s'adapter aussi au groupe. Là, on offre pas, par exemple, je fais le même service à un groupe qui commence qu'à un groupe qui est habitué et qui veut juste faire la salle. Tu fais que tu offres un service qui est... aussi, selon moi, le plus extraordinaire possible, disons, aux deux groupes, mais donc, je pense que mes indices vont être un peu plus vagues à un groupe d'habitués qu'à un groupe de débutants qui n'a aucune idée de ce qu'il fait là puis qui n'a aucune idée quoi chercher, tu sais.
Vous devez vous adapter continuellement de toute façon aussi. On parlait des joueurs qui embarquent ou non. Évidemment, ils n'ont aucune obligation. Au départ, ils sont là pour résoudre des énigmes. Je vais peut-être prendre un thème qui vous réunit parce que vous l'avez tous les deux chez Sauf qui peut et à Double Tour. C'est l'Égypte. Le rôle de maître de jeu. On va peut-être rappeler en même temps, c'est quoi la mission qu'il faut résoudre dans vos Égyptes respectives? De quoi donner une idée aux auditeurs de, OK, j'ai un thème égyptien, mais j'ai peut-être pas du tout la même chose à faire chez l'un et l'autre. Alors, peut-être chez à Double Tour pour commencer. Qu'est-ce qu'on a à faire chez le Secret des Dunes?
Oui, dans le Secret des Dunes, en fait, là, on doit retrouver Diana Jane qui est disparue là, à certains moments. Là. On accueille les clients. Vous êtes des archéologues, vous êtes des experts, en fait, puis vous venez chercher. Vous venez chercher la pauvre Diana là, qui a disparu, puis qui aurait été là, sur le bord d'une percée. Mais on n'en sait pas vraiment plus. Il faudrait retracer là, ses recherches, ses traces sur son lieu, sur son campement. On vous introduit dans le campement là, de Diana.
Et le personnage qui nous accueille, c'est qui alors?
Ça dépend beaucoup du maître de jeu. En fait, c'est ça qui est plaisant, c'est qu'on a un canevas de création. Il faut rester dans la limite de ce qu'on doit dire à peu près, mais on peut tous être différents. On a des pilleurs de tombes qui sont là simplement pour le profit. Puis si on est capable de trouver des choses qui étaient à Diana, ils vont les ramasser. On a des gens qui s'occupent du terrain. Donc moi, par exemple, je suis là et je gère l'équipe de terrain. Je suis là pour faire sûr qu'on les a engagés puis qu'ils travaillent, puis leur expliquer à peu près ce qu'ils doivent faire sur l'espace de recherche. Puis tu vas avoir des gens qui vont être plus des gens de sécurité. Fait qu'ils sont la tempête s'en vient. On aurait des groupes sauvages proches. C'est un peu dangereux. Fait que, dépendamment de ton maître de jeu, ton ambiance de jeu va être différente aussi. Ouais.
Vous avez eu carte blanche pour ça, surtout, parce que les concepteurs du jeu auraient pu dire, vous incarnez telle personne, puis vous faites tout ça à chaque groupe qui passe.
La balise est quand même serré au niveau de qu'est-ce qu'on dit à peu près dans nos indices. L'histoire de la salle va toujours être la même. Par contre, la personne qui t'accompagne dans cette salle-là va, un, s'adapter aux joueurs, puis deux, avoir sa propre personnalité au travers de son personnage. T'sais. Fait que si c'est des gens un peu plus nerveux, on va pas nécessairement pousser le fait qu'il y aurait des trucs qui rôdent autour de la tente, à moins que ce soit ça, l'énergie...
L'adrénaline qu'ils veulent, oui.
C'est ça.
Je peux comprendre. Alex, alors, le secret de Dandera chez Sauf qui peut, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette Égypte-là?
Le secret de Dandera, en fait, c'est vos parents qui ont tenté donc de découvrir le secret de la pyramide de Dandera, qui est une déesse en Égypte. Ils sont décédés en essayant, donc ils vous lèguent un message là à leur mort, dire, essayez-vous à votre tour de découvrir le secret de la pyramide. Donc les gens, on les lâche littéralement devant la pyramide, doivent trouver un moyen d'entrer cette pyramide, donc de découvrir un peu leur secret pour finalement révéler la source de la lumière et qui contient tous les secrets.
Donc vous voyez deux missions bien différentes, inspirées par un même thème.
Ok. Fait que donc vous, dans ces missions-là, là, on parlait d'Égypte, c'est l'exemple, mais comment ça marche? Comment vous pouvez aider les joueurs qui viennent? Donc, vous les surveillez, vous avez des écrans de surveillance. Comment ça fonctionne? Tu les suives? Tu as du son, tu as de l'image?
Parce que vous n'êtes plus avec eux dans la pièce dans les deux cas, ou presque. Oui, effectivement.
Ben, moi, en fait, on a des caméras, donc on les regarde vraiment en tout temps. Il y a un maître du jeu que son travail, c'est vraiment de rester devant les caméras en tout temps, puis s'assurer bon, que tout est beau, rien ne brise, personne ne se blesse. Quand j'ai un indice, bon, c'est lui qui donne les indices donc il nous envoie justement à aller aider les gens directement. C'est sûr que nous, on essaie de pas trop rentrer dans les salles, du fait que on n'est pas des comédiens. Donc on est des maîtres du jeu, mais on n'est pas des comédiens. Donc on trouve de rentrer dans la salle avec un chandail noir, sauf qu'il peut, ça brise un petit peu l'immersion. Fait qu'on essaie de pas trop rentrer dans la salle, mais de le gérer à distance. Mais j'ai envie de dire que les indices, comme je disais tantôt, on les adapte au groupe. Donc, j'ai tendance à dire des fois que je veux pas rien réveiller de la salle, évidemment, mais juste de parler dans un langage un peu d'archéologue, de parler d'astrologie, parler, bon, de choses qui ont rapport avec l'archéologie, rapport avec l'Égypte ancien. On va vraiment aller chercher l'immersion là, à partir de là et non en rentrant dans la salle directement.
Okay, mais là, outre l'immersion, c'est comment vous faites pour savoir que quelqu'un a besoin d'aide? Donc, tu le vois sur sa caméra.
Et qu'il ne le demandera pas, c'est ça?
Oui, ou qu'il c'est ça, ou qu'il ne le demandera pas. Donc, toi, est-ce que tu entends les gens
non,
parler?
Non, nous, on les entend pas. Il y a vraiment juste de l'image. Nous, en fait, là, quand on forme les gens au début, 15 ans chez Sauf qui peut, on a un cartable, un gros cartable que... Si on voit que rendu à tel... si le reste un tel nombre de minutes sont pas encore rendus à cette étape-là, on leur tend une perche ou on les aide un peu. Puis, tu sais, c'est bien aussi de pouvoir lire le langage corporel des gens. Si les gens sont les bras croisés, se regardent dans le blanc des yeux, se demandent quoi faire, OK, là, ça m'a hop, voulez-vous un petit indice? Voulez-vous un petit quelque chose pour vous aider? Fait qu'on se base beaucoup là-dessus là pour donner des indices.
Du côté d'À Double Tour, parce que vous, ben surtout en Égypte, vous rentrez dans la salle cette fois.
Ouais, le secret des dunes, c'est un peu plus... contrairement à vous, là, nous, on rentre dans cette mission-là. En fait, le personnage est physiquement présent. Donc, on a toujours notre petit costume là, d'archéologue, ou dépendamment de comment on veut projeter notre personnage, mais on a un costume complet et on rentre. C'est pas... on vient discuter de la salle. Moi, je fais sûr de leur mentionner que je vais venir vérifier s'ils travaillent vraiment, puisqu'on n'a pas les moyens là, de se payer des experts dans le vide. Donc, je vais toujours revenir puis voir si les experts, les chercheurs, les professeurs, ils avancent dans leur recherche. Donc, je fais un point de travail, mais je pense que plus d'aligner la personne que d'y donner des indices à ce moment-là, vu qu'on est présent, on va faire vous êtes rendu où, comment ça va vos recherches, puis c'est de rassurer parce qu'il y a tellement de pistes, mais ça c'est tous les joueurs de jeux d'évasion, ils rentrent, ils peuvent partir sur plein de tracks, fait que c'est de venir approuver ce que le professeur va nous mentionner comme ça me semble intéressant, tu sais, fait qu'ils vont pousser dans la bonne lignée, puis ensuite là si on voit que venir souligner les bonnes idées ou ben les bonnes pistes puis d'encourager la piste, ça suffit pas, mais là on va aller comme raconter plus ben, j'aurais entendu dire, ou on va donner du jus dans l'histoire pour que ça déclenche là des réflexions. Puis nous autres aussi là, c'est à peu près comme chez vous là, on a premièrement, là, on n'a pas de son. On n'a pas le son de la mission, mais on a complètement un visuel sur les joueurs. S'ils commencent à s'asseoir au sol, ils font rien, là, c'est sûr qu'on intervient. Mais habituellement, on a un timing, là, nous aussi. Là, si après telle minute, ils n'ont pas trouvé ça ou ils n'ont pas ils ont pas compris ça, mais on va aller leur faire un coucou, là, on va aller intervenir dans la salle.
Le scénario est établi aussi par un temps passé sur chaque énigme. Donc, si au bout de 15 minutes, on n'a pas trouvé telle chose, vous allez généralement intervenir pour aider l'équipe en difficulté. Ben, merci beaucoup, Samy et Alex, pour vos témoignages. Dans quelques instants, on va découvrir ceux de nos deux autres entreprises invitées, Défi Évasion et Cabinet Mystérisme. Mais avant ça aussi, on va faire un petit détour par Trois-Rivières avec un certain Bob, qui a un chalet, puis qui s'occupe très très bien de ses papillons. Mais à savoir qui sont réellement ces papillons, bon, on va en parler directement avec lui. On a voulu lui faire une petite dédicace pour l'occasion. Voici Jean Leloup avec Petit Papillon.
Dans un petit village que grandit la belle fille sage, plus connue sous le nom de Petit Papillon. Petit, petit papillon, petit, petit papillon, petit, petit papillon, comme le temps est long. Petit papillon prit le train un jour, un aller sans retour pour suivre son grand amour. C'était un joli blanc, pas si mauvais garçon, mais pour le reste plutôt con, comme le temps fut long. Dans son petit cocon, dans son petit bureau, pour joindre les deux bouts, elle tenait le coup. Mais les blonds sont sans cœur, ils ne donnent pas de fleurs, et quand ils partent, ils s'enfuient avec toutes les économies. Papillon avait le cœur trop tendre, décide de se pendre, mais la corde de se fendre. Elle essaie à nouveau, se lance sous les autos, se réveille dans les canaux, trempée jusqu'aux os. Elle tente l'overdose, une infirmière en rose la surveille en psychose dans une salle morose. Petit papillon s'en va chercher la mort pour lui dire deux mots, donne-moi mon passeport. Mais dans son sac poubelle, la mort la trouve tellement belle, elle lui roule une grosse pelle, lui jure un amour éternel. Petit papillon, jamais tu ne mourras, tu es à moi, je suis à toi, tu n'as pas le choix. Petit papillon se lance vers la mort, un poignard à la main, 12 coups de surin. Tiens, 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 la mort, tiens, meurs. La mort. La mort est un petit papillon qui trouve le temps long, attendant le prochain wagon, le prochain petit papillon. La mort est un petit papillon qui trouve le temps long, attendant le prochain wagon, le prochain petit papillon.
Jean Leloup, Petit Papillon, à CKRL 89.1, et on a diffusé cette chanson dans Cadena Directionnel, pardon, et l'Ampuvé que vous écoutez jusqu'à 20h30 sur les ondes de CKRL, émission consacrée aux jeux d'évasion. On a diffuser cette chanson spécialement pour quelqu'un qui adore les papillons, et pour cause, il habite un chalet perdu au fond des bois. Peut-être que vous lui rendriez visite à Trois-Rivières, plus précisément chez Enigma, parce qu'il va s'occuper de vous, mais peut-être pas de la belle façon que vous imaginez quand vous faites une petite fin de semaine sympathique au chalet.
Moi, je suis pas sûr que c'est un super host de Airbnb.
Exemple pour ne pas le citer, mais Bob est au bout du fil. Bonjour Bob.
Hey, salut Papillon.
Papillon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis-moi.
Ouais, ça fait longtemps que tu t'es échappé, toi, hein?
échappé, c'est un grand mot?
Ouais, ben là, non, t'as passé en travers les mailles du filet. M'a t'en repogné, tu vois.
Ah oui, tu penses?
Ah, c'est sûr.
Mais Bob, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe dans ce chalet au fond des bois? Je sais pas si on peut tout dire, là. C'est effectivement, moi, j'ai eu une petite aventure là-bas avec Marc. On a réussi à s'échapper, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans ton chalet?
Ben, moi, dans le fond, c'est que je collectionne ça, les papillons, moi. Je vais les trouver un peu partout, sur la rue. On sait pas, tu sais, des fois, ça se regroupe le soir, les petits-enfants, les jadots, là. Fait que moi, j'y pogne, j'y ramène à mon chalet.
Mm-hmm. Et après?
Mais là, moi, je les endors, par exemple, parce que le transport, il est long, sinon, ça chiole dans la poêle du pick-up, là, tu sais, tu comprends?
Et donc, pour vous, chers auditeurs, vous vous réveillez dans ce chalet et le but, c'est de vous échapper, mais sans que Bob vous voie. Hein, Bob?
Non, il faut pas que je te voie. Moi, là, je t'occupe, là, j'ai des couteaux, je parle à mon chien, Milou, tu sais, là.
Mm-hmm. On en garde un précieux souvenir, effectivement, parce qu'on ne comprenait pas trop ce qui se passait avec Marc dans le chalet. On se réveille d'un coup dans un endroit, c'est pas chez nous, puis on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, mais il faut s'échapper, parce qu'effectivement, on entend un son pas très rassurant quand on vient chez toi, Bob.
Tes couteaux
doivent... Voyons, c'est reposant, hein? Voyons donc, c'est reposant chez nous.
Non, mais tes couteaux doivent être vraiment bien aiguisés, parce que...
Oui, parce que ça, là, moi, là, parce que je coupe les ailes des papillons, puis ça prend une coupe bien franche.
C'est donc pour ça que t'aiguises tes couteaux. Et est-ce que tes petits papillons arrivent à s'échapper à chaque fois ou c'est 50-50? Parce que t'as kidnappé quand même pas mal beaucoup de monde, Bob.
Ah oui, moi j'en ai kidnappé du monde. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, là, Milou il me niaise, puis là, il y a de la misère, fait qu'ils s'en vont. Mais moi je les repogne, c'est sûr que je les repogne plus tard.
Bon, ben, si vous voulez vous mesurer à ce défi, ça se passe chez Enigma, le chalet, pour rencontrer Bob. Vous le verrez de loin, c'est mieux pour vous. Ne vous en approchez pas trop, on peut y jouer quand même jusqu'à 10 personnes. Tu peux kidnapper jusqu'à 10 personnes, Bob. C'est incroyable.
Non, il y a de la place dans le chalet, il y a de la place à la main.
Merci, Bob.
Ben, ça fait plaisir, papillon.
Papillon. Ah, lui et ses papillons, c'est même sur les murs du chalet, c'est pour dire à quel point ça nous rappelle de très bons souvenirs. Donc voilà une idée de l'interaction que vous pouvez avoir avec Bob, hein, donc je le rappelle, maître de jeu chez Enigma à Trois-Rivières. On est vraiment pas loin, 1h15 de route grand maximum. Et sur quoi a misé Enigma, c'est d'avoir des immerseurs, donc des acteurs vraiment qui sont présents dans chaque salle. Et là, littéralement, donc dans cette mission où vous êtes kidnappé dans un chalet, vous vous réveillez dans un salon qui n'est pas le vôtre, vous entendez Bob à vos côtés. Alors C'est particulier la manière dont il donne des indices hein, dans ce jeu-là, parce qu'il n'est pas censé nous aider, vu qu'il veut nous garder kidnappés, mais en même temps, il nous aiguille.
Puis c'est pas aussi la même dynamique, donc l'acteur est dans la pièce constamment, et donc il est toujours en train de jouer avec vous pendant l'heure, même si vous le voyez pas toujours, vous l'entendez, vous savez qu'il est là, ça apporte une vraiment belle dynamique au jeu. Puis effectivement, la façon qui réussit à nous aider, en fait. Tu demandes jamais d'indices. Donc,
vaut mieux pas.
T'as pas de walkie-talkie, t'as pas rien, mais c'est tellement bien monitoré que instinctivement, il trouve le moyen de te guider vers la solution d'une façon où ça peut avoir l'air crédible. Puis ça rend le jeu vraiment génial.
Il vous observe aussi d'une certaine façon et à vous de ne pas vous faire prendre parce qu'il ne doit pas imaginer que vous essayez de vous enfuir. Là, il est un peu conscient parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il capture ses papillons, ils essaient de s'échapper. Mais évidemment, le but, c'est de ne pas vous faire voir. C'est vraiment une expérience assez unique hein, qu'on peut vivre à la base. C'est pour ça qu'on tenait à le mentionner parce qu'ils sont les seuls pour l'instant à faire ça de cette façon au Québec. Mais vraiment, toute une expérience. On a parlé avec Bob le psychopathe, mais il y aurait aussi un zombie qui pourrait vous poursuivre dans l'une des salles. Et puis bah là, comme d'habitude, le but, c'est de trouver l'antidote pour notamment, ça dépend, hein, des fois le zombie, ça prend plusieurs directions. Marc, toi qui es plus expert là dans zombie, faut juste s'échapper du zombie, finalement.
Ouais, faut s'échapper. De toute façon, le zombie, ça, c'est moins intéressant de l'avoir en entrevue au téléphone. Bob, c'était mieux.
Oui, l'élocution est quand même plus intéressante. Mais bref, allez voir ça si vous voulez vivre cette expérience, donc Enigma à Trois-Rivières. On va poursuivre dans quelques instants, comme je vous le disais, avec le suivi des expériences de maîtres de jeu à Québec avec deux autres entreprises, Défi, Évasion et Cabinet Mystérie. C'est dans les prochaines minutes de Cadenas Directionnel et Lampe UV jusqu'à 20h30 sur les ondes de CKRL.
CKRL. Communication, culture. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca.
Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances ou vos découvertes musicales avec nos auditeurs? Proposez votre projet d'émission à CKRL pour la saison estivale ou la saison automne-hiver 2019-2020. Comment faire? Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire en ligne. Faire partie de l'équipe de bénévoles de CKRL, c'est faire partie de la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Tentez votre chance. Vous avez jusqu'au 14 mai pour la saison estivale et jusqu'au 2 août pour la saison automne-hiver 2019-2020.
De retour dans Cadenas Directionnel et Lampe UV, votre émission consacrée aux jeux d'évasion tout l'été sur les ondes de CKRL. On est ensemble jusqu'à 20h30. Jessica Leb avec vous, toujours en compagnie de Marc Raymond. Marc est toujours là?
Toujours là.
Pas achevé par Bob le psychopathe à qui on a parlé avant la pause?
J'ai toujours mes ailes.
Toujours ses ailes de papillon. On continue à découvrir le métier de maître de jeu dans les jeux d'évasion. On vous a présenté tantôt deux maîtres de jeu à Québec. Alex Saint-Jacques qui vient de Sauve qui peut, qui est un maître de jeu assez classique. Hein. On est là pour accompagner les joueurs dans la mission qu'ils doivent accomplir. On communique avec eux via un walkie-talkie. Chez À Double Tour, on incarne un personnage. C'était le témoignage de Samy Girard qui nous a parlé du personnage qu'elle pouvait incarner, notamment en Égypte, dans Le Secret des Dunes. Deux autres portraits maintenant avec Eliane Morin-Côté qui travaille chez Défi Évasion depuis janvier 2018. Elle a une soixantaine de jeux à son actif en tant que joueuse, donc véritable accro elle aussi. Bonjour Eliane.
Allô.
Et en face de toi, Alexis Tremblay-Morel qui travaille chez Cabinet Mystérie. Lui, il a plus d'une centaine de jeux à son actif en tant que joueur. C'est un ancien enseignant, il travaille à Cabinet Mystérie à temps partiel. Il avait très envie de voir l'envers du décor, c'est pourquoi il travaille depuis 4 mois maintenant. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors, pour vos profils de jeux d'évasion, cette fois, Défi Évasion, je pense que ça a évolué entre le début de l'entreprise et ce qu'il en est aujourd'hui, parce qu'au début, je pense que c'était une dynamique assez classique, on avait un walkie-talkie, et puis maintenant, on voit que les maîtres de jeu, c'est pas nécessairement une performance d'acteur, mais ils incarnent tout de même un personnage et le maître de jeu qui les accompagne est dans la thématique de la mission qu'on va accomplir.
Oui, exactement. Ben en fait, au début de Défi Évasion, c'était carrément les propriétaires qui le faisaient. Eux, aucun background en théâtre, donc ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Là. Mais là, on a vraiment plus axé sur engager des gens qui sont plus à l'aise avec communiquer avec les gens, qui ont un certain background en théâtre aussi. Donc, c'est sûr que là, ça l'a quand même beaucoup changé. Il y a toujours eu un peu le côté personnage d'apporter dans les salles. Mais là, on a vraiment plus axé là-dessus pour vraiment faire ressortir là, le personnage, vraiment le maître de jeu en tant qu'un personnage qui a rapport à la salle.
Ouais. Bon, on peut donner un exemple, peut-être. Moi, c'est le plus récent que j'ai en tête, c'est l'élixir. Ça se passe au Moyen-Âge, donc on a quelqu'un de l'époque qui nous accompagne.
Oui, exactement. Dans le fond, l'élixir, le but, c'est de retrouver l'élixir de jeunesse du roi parce qu'il est en train de mourir. Fait que là, c'est l'intendant du roi qui est là, qui comme là, faut vous sauver le roi, là, parce que sinon le roi il meurt. Fait que on met beaucoup de pression là-dessus, dépendant des gens aussi. Il y en a qui vont en faire un plus excité, il y en a qui vont faire un plus fou, il y en a qui vont en faire plus sérieux, dépendant des gens. Mais tu sais, le but, ça soit vrai, c'est vraiment que ça soit l'intendant du roi qui soit là pour vous accompagner, pour que vous avez quand même un petit peu de pression, là. Tu sais, vous êtes pas juste dans un château médiéval, là. Il y a quelque chose à faire.
Et ce personnage, lui, entre dans la salle, bah, dans le cas de l'élixir, mais je pense que c'est la même chose chez les autres. Il vient, c'est un peu comme ce qu'à Double Tour nous expliquait. Il regarde ce qui se passe dans la salle, il dialogue avec les joueurs pour savoir où ils en sont.
Oui, exactement. Dans le fond, on a deux salles qu'on ne rentre pas nécessairement dans la salle. Je dirais pas nécessairement lesquelles. Mais en général, oui, notre but, c'est vraiment de rentrer dans les salles, être avec les clients. Parce que on trouve que ça apporte un petit quelque chose de plus.
Une dynamique supplémentaire. Ouais. Du côté de Cabinet Mysteries, j'ai presque envie de dire que de qualifier l'interaction que vous avez avec les joueurs, c'est presque briser le mystère autour des jeux, sans faire de jeu de mots, parce qu'on s'attend pas du tout à l'interaction que vous avez avec nous à ce moment-là. La personne qui nous accueille pour nous dire les règles, c'est pas nécessairement la personne qui va jouer avec nous.
Non, assurément. La personne qui est à l'accueil, ce n'est pas la personne qui va vous animer. Il va y avoir un animateur par pièce et c'est cette personne-là qui va vous suivre tout au long de votre parcours durant l'heure.
Et c'est pas forcément quelqu'un qu'on voit non plus. C'est peut-être la seule chose que je pourrais dire. Plus ou moins.
Certaines fois, vous allez nous voir. Certaines fois, on va être directement avec vous. Certaines autres, on va être indirectement avec vous. On va être costumé, évidemment. Des fois, on peut incarner même des marionnettes ou autre chose, mais...
On peut pas trop en dire.
Exact.
C'est ça le problème avec Cabinet Mysteries.
Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que c'est vraiment varié comme...
Oui.
Méthode de communication que vous avez, ça sera pas toujours la même chose.
Non, assurément. On va avoir des personnages différents pour certains moments même
du jeu,
exact. Mm.
Voilà. Ça demande plusieurs qualités, d'ailleurs, dans l'interprétation de ces personnages. Quand on parle d'observation des salles, cette fois, vous aussi, en fait, tous, vous fonctionnez avec des caméras de surveillance parce que même si dans l'élixir, le personnage rentre dans la salle, il les a vus au préalable sur une caméra.
Oui. En effet, nous, on regarde toujours sur les caméras parce que, ben, comme dans pas mal tous les jeux d'évasion, on a des barèmes à respecter. T'sais, exemple, à 10 minutes, il faut qu'elle ait fait ça. À tel nombre de temps, il faut qu'elle ait fait ça. Chez Défi Évasion, notre but aussi, c'est que vous en ayez fait le plus possible dans une heure. Donc, on veut vous amener à progresser le plus possible dans la salle. Donc, on va vous regarder beaucoup pour savoir où est-ce que vous êtes rendu, pour savoir quand rentrer. Si vous êtes bon, on viendra pas vous tanner. Là, on va peut-être juste faire comme « Hey, salut, ça va bien? OK, bye. » Mais on va pas nécessairement vous donner des indices si ça va bien. Puis si jamais ça bloque vraiment, là, faut rentrer, faut vous aider. On sait toujours où est-ce que vous êtes rendu avant même de rentrer dans la salle. Là. On vous guette assez pour savoir comme « Ah, oh, il a fait ce mouvement-là, ça veut dire qu'il a ouvert tel cadenas, faut rentrer. » On est quand même très à l'affût de qu'est-ce qui se passe.
Ce qui est drôle, c'est que, bon, je le dis parce qu'on vous a suivi, hein, c'était la toute première émission de Cadenas Directionnels et Lampe UV. On avait initié Melody Spear à l'élixir chez Défi Évasion, justement. Donc, nous, on était côté maître de jeu avec Marc pour observer les joueurs. Moi, ce qui me faisait sourire dans le travail du maître de jeu, c'est qu'il fait semblant de pas savoir où en est l'équipe quand il arrive dans la salle. Mais en fait, il sait déjà pas mal de choses grâce aux caméras de surveillance. Ça aussi, ça fait partie de l'interaction que vous voulez créer avec les joueurs.
Oui, exactement. Quand on rentre dans la salle, on est tout le temps comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, où est-ce que vous êtes rendu? » On leur dira jamais genre « Je sais que t'es rendu à telle étape, je vais t'aider. » On n'est pas censé être là, on les guette, mais tu sais, nous, exemple, dans l'élixir, on leur dit « Ah, oh, on va aller faire un petit tour ailleurs, donc on revient plus tard. » Donc, techniquement, si on veut bien suivre l'histoire, on les a pas vus. Mm-hmm. Fait qu'on va faire des petits twists comme « Ah, je sais pas où est-ce que vous êtes rendu en réalité. » Puis là, ils t'arrivent, ils sont comme « On essaie de travailler là-dessus, mais toi, tu le sais que ça n'a aucun rapport pour là, c'est plus tard. » Fait que là, t'essaies de les ramener, genre « Ah, peut-être que telle affaire, c'est beau, tu sais, ça a l'air le fun. » Fait que là, t'es ramène où est-ce qu'ils devraient réellement travailler.
Mais c'est une manière de nous faire oublier les caméras aussi en tant que joueur. Je sais pas si vous avez la question souvent de « Ah, est-ce qu'on est filmé, que ça dérange des gens ?» Bon, faut savoir que c'est aussi une norme de sécurité, bien évidemment, mais c'est vrai que ça nous fait oublier les caméras si vous arrivez en faisant semblant que vous savez pas où on en est versus « Je vous ai observé, je sais où vous en êtes. » Chez Cabinet Mysteries, c'est aussi des moyens assez futés de nous observer. Pas toujours évident. Il y a les caméras. Comment toi tu agis avec les joueurs? Parce que toi aussi, il y a une partie de je sais pas trop où vous en êtes, puis j'essaie de vous ramener sur la bonne piste.
Oui, nous, il y a les caméras, mais sinon, la majorité du temps, on va être dans une salle à côté où est-ce que les caméras ne sont pas, mais on va écouter les joueurs. Parce qu'on, quand l'interaction entre les joueurs, justement, est importante, savoir qu'est-ce qu'ils se disent, savoir s'ils sont rendus au bon endroit, s'ils travaillent sur la bonne chose. Donc, seulement avec les caméras, on peut trouver ça difficile, mais en les écoutant, habituellement, on a une bien meilleure idée de qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la pièce.
C'est bien important de les entendre pour ça, bien évidemment. En termes d'équipe que vous rencontrez, parce que vous en rencontrez de tout genre, j'imagine, est-ce qu'il y a une chose la plus folle, la plus bizarre, ridicule, incroyable que vous avez vue dans une équipe? Parce que là, il y a quand même en 4 mois, je pense, Alexis, t'as vu pas mal de différentes équipes. Qu'est-ce qui vous surprend le plus quand vous observez une salle de jeu d'évasion?
Moi, des fois, c'est à quel point, tu sais, le client, il sait pas du tout qu'est-ce qu'il fait. Et là, il va réussir à résoudre une énigme, pas de la bonne façon, mais d'une façon tellement ingénieuse que tu peux même pas lui dire comme « Hey, t'as triché ». Parce que c'est tellement hot ce qu'il vient de faire que tu peux juste être étonné par ce qu'il a fait, puis t'es comme « Oh my God, c'est merveilleux ».
Puis ça, c'était jamais arrivé.
Ouais, exactement. Il y a des petits trucs que des fois, ils reviennent une fois par mois. T'sais, mettons, une fois par mois, tu pognes un groupe, ils vont tout faire cette affaire-là. Ou t'as un affaire, exemple, ça fait un an que la salle est ouverte, c'est jamais arrivé, puis là, t'as 4 groupes dans la même semaine qui vont faire la même affaire, vraiment ingénieuse. Mais tu peux comme pas vraiment dire, ah, t'as triché, tu sais, il va falloir que t'en retournes. Non, c'est tellement ingénieux, t'es juste comme, OK, viens faire tes énigmes avec nous. C'est vraiment hot ce que tu viens de faire. Sinon, t'as des groupes vraiment expérimentés qui rentrent, qui sont tellement organisés, puis t'es juste comme, je vais juste pas vous déranger. À chaque fois que tu rentres, t'es comme, non, je suis trop dans la pièce, je vais juste m'en aller. Puis ils sont juste tellement bons, puis ils sont tellement dedans. Ou des groupes qui viennent de costumer aussi, dans l'élixir particulièrement.
Ah, bon, on connaît pas ces groupes-là, nous. Mais nous, on adore venir costumer. C'est souvent des idées de marque, d'ailleurs, qui a une thématique. Là, ils se disent, on vient comme ça. Bon, l'élixir, c'est pas compliqué. Version médiévale, c'était plutôt simple à réaliser. Alexis, toi, quelque chose qui t'étonne dans les groupes que tu peux observer chez Cabinet Mysteries?
Ouais, on voit différents types de communication. Il y en a qui vont communiquer très, très bien. Il y en a d'autres, même quelquefois, ça va être des couples plus souvent qu'autrement, des couples qui vont vraiment mal communiquer et qui vont même se chicaner un peu. Donc,
Ça arrive souvent, les chicanes dans les salles.
Toujours sourire. Ça, des petites chicanes, ça arrive fréquemment, oui.
Fréquemment, à ce point-là. Incroyable.
Ça, des fois, des joueurs qui rentrent dans ta bulle pendant que tu essaies de...
Pourquoi tu me regardes avec insistance, Marc? Mais c'est drôle parce que je pense que vous serez tous d'accord. On se découvre des facettes dans les jeux d'évasion. C'est ça, pour être en couple avec Marc depuis bon nombre d'années, j'ai découvert une facette que dans la vie quotidienne, je ne vois jamais habituellement. Puis là, dans le jeu d'évasion, j'ai vu et ça me plaît beaucoup moins.
Le côté compétitif qui ressort?
Par exemple, ou le fait ne me dérange pas, je suis concentrée, c'est ça, je veux y arriver. Bon, ça revient au même, finalement. On va vous réunir, maître de jeu, autour de la table, parce qu'on a envie que vous nous partagiez vos anecdotes d'observation de joueurs. Avant ça, ben, Marc a trouvé une chanson de circonstance. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va mettre comme chanson en lien avec les maîtres de jeu? Ben, c'est la chanson qui s'appelle « Indice », en français en plus. Tu sais où on en est, Marc? De aucune DJ Widim. C'est toi qui l'as trouvé un peu plus tôt. Écoutez, du rap francophone, la chanson s'appelle Indice. On avait envie de la dédicacer à nos maîtres de jeu. Vous êtes toujours dans Cadenas Directionnel et Lampe UV jusqu'à 20h30.
Sont les traits, j'ai des indices qui parlent sur moi, j'ai des indices qui veulent m'apporter des indices. Ils sont sans les et le femme à Sari, parmi les Judas Folari, travaille du mardi au lundi. J'ai des indices, j'ai des indices. J'suis plus geisha, jeune RK1, préfère tes choix au Baby Shark. Nique grande porte, j'rentre par Stargate, ton guest star. Quand ils demandent de l'aide, je suis Ray Charles. Où ça? La cocu et les cookies, hey. La veste tourne comme des cookies, hey. Pas tous ces gars, seul dans ma jungle, je suis Mowgli, hey. J'ride et vois les gars qui voudraient me traîner dans ma quête. Beaucoup d'ennemis, car j'suis pas seul dans ma tête. Ils attendent mon avis pour gueuler. Ils me disent Eden, ouais, double les. Donc quand j'arrive dans la soirée des merdes, je ne me présente plus, ils peuvent googler. J'peux pas échouer, beaucoup trop de rappeurs dans le game. J'dois faire de la place, c'est une question de feng shui. L'impression d'être Harry Hoover, je lis adieu Gary Cooper le jour où il meurt. Je crie alléluia, boy ici c'est pas l'Amérique, ça peut être Caribbean dans ma barre d'immeuble. Ils vont copier mes lignes, c'est les Bartinson. Pour niquer le rap, j'suis dans les tartines blocs. J'ai des indices.
J'ai des indices. Que sont les putes dans le complément d'enquête? Je ne fais pas du rap pour combler vos têtes. Si tu veux apprendre des trucs, m'écoute pas, lis un bouquin, puis regarde une conférence TED. Yeah, que les menteurs, tu te vends battre des mêmes au prix d'usine. Je t'amène ta caille, puis 20 ans plus tard, mon gosse revient nickel, tiens, on fait du ring. J'ai des indices sur qui parle sur mon clan, qui font les grossistes dès qu'ils ont stiffé une trace. Ils mettent mal à l'aise comme un rappeur conscient ou encore comme un youtubeur qui fait du rap.
J'ai des indices. Veulent jouer les voyous, peu de propos dans leur voyelle, ok. Tout ça m'a interloqué, je vois faire des EP low cost. Je vois les anciens traits qui recommencent à m'appeler, ok. Sur eux, j'ai des indices pour les trouver, je suis Sherlock Holmes. Dans mon équipe, rien n'a changé, hey. Il n'y a pas d'embrouille pour un singe, hey, hey. Pour l'instant, j'ai maîtrisé l'incendie, car ils sont sans gêne que le sang, j'ai, hey, hey. Non, tu seras pas millionnaire, on attire la lumière, tu ne vas pas rayonner. Quand t'as voulu me fitter, on t'a rayonné. Avec le couteau, tu vas papillonner, et ta boîte de crâne devient cabriolet. Ya. Les niquer tous les jours, mon mindset. Ils sont absents lors du mic check. Plein d'influence dans leur blender. C'est pas un album mais un blind test. J'ai des indices.
DJ Widim avec Indice à CKRL 89.1 qu'on dédicace à nos maîtres de jeu hein, dans cette émission Cadenas Directionnels et Lampe UV consacrée aux jeux d'évasion. On vous rappelle, c'est un rendez-vous qu'on vous offre tout l'été jusqu'à 20h30. Jessica Leb avec vous et Marc Raymond aussi, qui a encore une fois mené une grande étude scientifique auprès de nos accros de jeux d'évasion, parce que oui, il y a un groupe d'accros sur Facebook qui est rendu à combien de membres maintenant?
À peu près 1500 personne, un petit peu plus que ça, là.
À travers le Québec et même certains d'ailleurs qui se sont incrustés pour la bonne cause. Marc, tu as posé une question. On parle du métier de maître de jeu d'évasion avec nos entreprises invitées, mais t'as demandé à des joueurs s'ils avaient un souvenir d'une fois où le maître de jeu a vraiment bonifié leur expérience d'une façon mémorable, et on aimerait lire quelques-uns de leurs témoignages.
Ouais, fait que là, c'est maintenant qu'on lance des fleurs au bon maître de jeu.
C'est le moment.
Ben oui. Puis n'hésitez pas à dire merci à vos maîtres de jeu aussi quand ils vous donnent une belle prestation. En fait, ça vraiment, si on vraiment bonifie votre expérience, dites-leur merci. Ils font de la bonne job pour vous autres. Donc, c'est ça, on a demandé aux gens de nous donner des anecdotes ou pas des choses qui faisaient que le maître de jeu qui les a guidés dans leur aventure a vu un petit plus. Donc, on a Patrick qui nous a dit que chez Défi Évasion, quand il a fait l'élixir, il dit habituellement, il aime pas ça avoir des maîtres de jeu qui sont des personnages, puis qu'on peut pas appeler à notre guise. Mais pour l'occasion, il dit qu'il suivait la progression de très, très près, puis qu'il arrivait toujours au bon moment, puis qu'il nous poussait toujours dans la bonne direction sans trop donner d'informations. Fait qu'il dit ça l'a apporté. En plus, le côté narratif qu'il apportait à chaque visite a ajouté une dimension à la salle qui serait difficile de répéter sans le même maître de jeu. Fait que...
Premier souvenir mémorable de Patrick. C'est une qualité essentielle chez les maîtres de... Oui, on n'aime pas les maîtres de jeu qui ont rien suivi, en fait, de ce qu'on a fait. Là, vous disiez que vous arriviez, vous faites semblant de ne pas avoir suivi, mais vous avez une petite idée. Mais il y a vraiment des maîtres de jeu, des fois, on a l'impression qu'ils ne nous ont même pas regardé, puis ils arrivent en touriste. Eliane, peut-être réaction en tant que représentante de Défi Évasion?
Moi, c'est sûr que je vais transmettre le commentaire à mon équipe. Ça, c'est bon à ça, c'est bon à voir. L'élixir, c'est souvent une salle où est-ce qu'on a quand même des bons commentaires. Le personnage est quand même très, très important. Autant dans les autres salles, mais on dirait que l'élixir, le personnage ressort plus souvent. Également, dans l'élixir, c'est une salle qui est quand même difficile à suivre pour le maître de jeu. Donc, de savoir que le client trouvait qu'il arrivait toujours au bon moment et puis que ça l'a vraiment aidé la progression, c'est très, très bon à savoir. Là, je sais pas c'est qui son maître de jeu. Jamais Patrick, t'es à l'écoute puis que tu veux nommer ton maître de jeu, gêne-toi pas. On va pouvoir lui dire un gros, gros merci. Mais c'est vraiment le fun à savoir ça. Là. C'est sûr que de savoir qu'il a été capable de suivre la progression du groupe et de l'aider comme ça dans l'élixir, c'est très, très bon.
Et une qualité qu'on recherche dans tous les jeux d'évasion. René, cette fois, qui nous parle d'une expérience chez Cabinet Mysteris.
Puis chez Immersia. En fait, elle ne remercie pas nécessairement le maître de jeu lui-même, mais elle nous dit qu'elle se souvient encore comment qu'elle avait trouvé ça cool, la façon de communiquer dans le chalet chez Immersia. Puis elle se disait même que la madame devait les trouver gossants.
Donc, et ça, c'est à Laval. Hein,
ça, c'est à Laval. Mmh. Mais donc, il n'y a pas juste la prestation du maître de jeu, mais aussi la façon avec laquelle on communique avec lui, tu sais, qui peut avoir d'importance. Elle, ça l'a marqué. Malheureusement, pas vous dire c'est quoi le moyen de communiquer.
Ben mais non, bon. Ça fait partie de l'histoire. Et elle mais dit c'est aussi, pas un walkie-talkie.
Ouais, c'est ça. Elle dit aussi, chez Cabinet Mystérieux, ça m'a vraiment plu. Je ne m'attendais pas du tout à ça et ça l'a ajouté beaucoup au scénario.
Sur la façon de communiquer, encore une fois. On transmettra, Alexis, n'est-ce pas? cette fois, du côté d'À Double Tour, ce ne sont que des exemples qu'on donne. Évidemment, il y a des bons commentaires un peu partout. Mais À Double Tour, pour terminer avec Guillaume, Marc?
Fait que Guillaume, c'est à cause de vous, À Double Tour, que Guillaume continue de faire des jeux d'évasion maintenant. Ça a été son tout premier jeu d'évasion que leur maître de jeu les a marqués. Il savait vraiment pas c'était quoi un jeu d'évasion. Puis ben Julien, celui-là, on peut le nommer, chez À Double Tour, il les a vraiment permis de comprendre ce qu'il devait chercher dans la salle, mais d'une façon immersive. Puis après quelques interventions de sa part, ben là, ils ont vraiment senti qu'ils ont saisi ce qu'ils devaient faire. Puis ben, c'est à partir de ce moment-là là, que ça a été le début de leur passion des jeux d'évasion.
Alors, un bon point à relever chez tous ces maîtres de jeu qui se dévouent corps et âme dans nos jeux pour nous faire progresser, surtout nous faire passer un bon moment. Je vais poser la question maintenant à Alex, à savoir chez Sauf qui peut, mais toi, la chose qui t'étonne le plus quand tu observes les salles, parce que vous les faites mille et une fois, vous connaissez les jeux par cœur, mais quelque chose qui t'étonne encore en tant que maître de jeu.
Tu m'étonnes un cas plus particulier ou plus en général dans les salles?
À toi de me dire, peu importe.
Ça, en fait, c'est plus à la succursale de Seigneur sur Richelieu. Donc, à Québec, c'est relativement différent. Mais dans une des salles, à Saint-Jean, il y a une fresque qui est faite à la main par notre artiste Denis Ruffiange. Shout-out s'il nous écoute. Mm-hmm. Donc, dans la signature de Monsieur Ruffiange, il y avait... dans la signature, il y avait des clients qui ont vu un code dans sa signature. Donc, certaines lettres ressemblaient à des chiffres, puis ils ont pu ouvrir un cadenas avec ça, ce que je trouve complètement irréel, parce que, bon, Ruffiange, d'abord, c'est pas un nom qui est très commun. Okay. De mémoire, le I, c'était comme un 1, le F, c'était comme un 7 à l'envers. Fait que, ça me semblait tantôt, est-ce que vous disiez que des fois, les gens trouvent des réponses dans des endroits que ça a vraiment aucun rapport, là.
Donc, mais des fois, ça arrive, là. C'est ingénieux, c'est une belle idée d'énigme, d'ailleurs, je trouve.
Ben, ouais, c'est vraiment ingénieux, mais, tu sais, je me dis, jamais on mettrait un cas dans une signature. C'est tellement, des fois, c'est dur de la signature des gens, tout dépendant de l'écriture, là, de la personne qui l'a fait. Mais, des fois, ça arrive que les gens trouvent des solutions puis que sont pas pantoute rendus là puis ils viennent de sauter 4 énigmes, mais quand on voit qu'ils ont sauté trop d'énigmes, à ce moment-là on leur dit si vous préférez avoir toute la salle, toutes les énigmes, on vous suggère de, exemple, fermer tel cadenas et de passer vers telle énigme. Mais si on voit qu'ils sont rendus là, que l'on vend d'une autre manière, là, qu'on trouve ingénieuse, à ce moment-là, on va rien dire. Mais, exemple, là, je dirais rien, évidemment, mais dans le bar clandestin, dans le dernier mois, c'était arrivé une couple de fois que des gens skippaient comme 5 énigmes, puis qu'on leur disait, ouais, gang, si vous voulez vraiment avoir la salle au complet, je vous suggère de fermer le cadenas et d'aller voir plus vers telle partie de la salle. Là.
Et comme quoi ça arrive. Ce sont des cas rarissimes, hein, on va le dire.
Oh, ouais, c'est
mais
rare.
Mais quand même. Et chez À Double Tour, Samy, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'étonne encore quand tu observes des joueurs, alors que ça fait mille et une fois que t'as observé cette salle?
Ben, quand je regarde des joueurs, souvent c'est ça, il y a des comportements qui reviennent, mais ce qui me fascine à chaque fois vraiment, c'est à chaque fois que ça m'arrive, en fait, là, c'est que parfois tu vas développer des grandes connexions avec des clients. Tu sais, moi, surtout avec Grande Évasion, on fait un personnage qui est assez, je dirais, attachant selon le maître de jeu. Là.
C'est une prison.
Oui, c'est ça.
Faut le dire.
Il y en a des moins attachants que d'autres, là, mais il y en a qu'on va s'attacher là, vraiment beaucoup parce qu'ils nous voient pas tant que ça. Puis ils vont. Moi, j'ai eu des secrets, des confessions là, en tant que maître de jeu. Là. Les gens, ils prennent mon personnage pour quelqu'un de vrai, puis ils vont me dire des choses beaucoup. Puis lors d'un de mes désaccueils, là, il y a ça m'est arrivé deux fois que des dames s'étaient tellement attachées à mon personnage qu'ils l'ont transposé sur moi pendant que je les félicitais, mettons, de leur jeu. Puis à la fin, en me disant, bye, les deux dames qui s'est arrivé d'avoir une belle connexion, ils m'ont fait un câlin. C'est leur première fois, les deux, puis on dirait qu'ils savaient pas trop comment me remercier, puis ils ont vraiment vécu quelque chose de chouette, tu sais. Ils voulaient vraiment, comme, me montrer que c'est quelque chose qu'ils avaient apprécié, puis que j'étais venue les chercher. Ils m'ont fait des câlins. Puis j'ai vu que c'est vraiment, même en une heure, quand on rend les gens à l'aise, puis qu'on les aide au travers d'une prison, je sais pas, ils s'attachent fortement à ton personnage, puis à toi de fait même, mais c'est les connexions qui me surprennent encore, là, même quand...
Wow! Dis donc, moi j'aimerais vivre ça aussi avec maître de jeu. Non, mais c'était vraiment intéressant d'entendre vos témoignages, bien évidemment. Comme on approche de la fin de l'émission, on va rappeler où se trouvent les entreprises que vous représentez, comment réserver, à quel moment vous êtes ouvert aussi, parce que ça y est, on passe en période d'été. Donc peut-être défi évasion. Eliane Morin-Côté, merci beaucoup. Comment on fait pour... on vous trouve où, défi évasion? Vous êtes un peu partout en ce moment. Hein?
Défi évasion, on a un local sur Jean Perrin avec 7 salles. On va ouvrir bientôt également à Lévis, donc 3 salles à Lévis. On a également 2 mobiles qui peuvent se déplacer un peu partout au Québec et un jeu pour entreprise. Donc, on en fait appeler au défi évasion. Vous pouvez aller sur notre site Internet pour réserver, mais appelez-nous si jamais vous voulez un mobile ou quoi que ce soit. On peut se déplacer vraiment n'importe où est-ce que les routes sont praticables. Le local en tant que tel, présentement, il est sur Jean Perrin, près des Galeries de la Capitale. Si vous voulez venir faire un tour, il y a du parking en masse, fait que...
Vous êtes ouvert tous les jours cet été?
On est ouvert du mardi au dimanche. Samedi, dimanche, on est ouvert de 10h à environ 10h, là, dépendant des journées. Sont en semaine, les heures d'ouverture sont mardi 5h à 8h et mercredi, jeudi et vendredi, là, c'est un peu plus ouvert.
Tout est sur le site internet. De toute façon, on ne va pas détailler les horaires de tout le monde, mais merci pour les précisions, Eliane. On va continuer avec Alex Saint-Jacques qui représente Sauf qui peut. Donc, on vous retrouve sur le boulevard Charest.
Oui, donc le 626 Charest Est. On est ouvert tous les jours, donc du mardi au dimanche également, mais c'est pas rare que le lundi on ouvre pour des groupes là, qui ferment une salle, soit des gros groupes corporatifs ou des groupes, bon, plus des groupes de particuliers, disons, là, qui viendraient faire nos salles. On a présentement 6 scénarios qui va du plus facile au plus expert. Puis on travaille présentement sur un début de 7e salle que je peux pas trop parler parce que moi-même j'ai aucune idée ça va ressembler à quoi.
C'est souvent
c'est
comme ça.
Pardon.
Et puis, on continue avec Samy Girard, qui représente à double tour. Vous êtes sur la rue du Parvis dans Saint-Roch aussi. Ouvert tout l'été?
Oui, mais notre horaire d'été là, va changer parce que ça se modifie quand il y a vraiment beaucoup plus de gens. Là. C'est normal que durant la période forte, ça change. Donc, s'informer là, sur le site Internet, c'est important. Puis, nous aussi, là, en fait, on a 5 salles, mais nos magiciens du fun, là, dans nos labos secrets, ils sont toujours en train de développer des nouveaux projets. Ça peut changer les ouvertures aussi selon les corpos ou les groupes spéciaux qui nous appellent. Fait que c'est de nous appeler, de voir si c'est possible. Sinon, le site Internet là, est assez détaillé là-dessus.
Merci beaucoup, Samy Girard. Et on termine avec Cabinet Mystéris, situé dans Sainte-Foy, aussi ouvert tout l'été si on veut vivre l'un de vos 2 scénarios.
Assurément, du mardi au dimanche et certains lundis fériés, où est-ce qu'on va ouvrir?
Comme lundi prochain, par exemple, la Fête du Canada. Merci beaucoup à tous. Alexis Tremblay-Morel, c'était Cadenas Directionnel et Lampe UV. Marc Raymond qui est au loin, merci à toi aussi. Et dans quelques instants, vous retrouvez Chucky McDonald pour La Loi du Rock. C'était Jessica Leb avec vous. Je vous souhaite une belle soirée sur les ondes de CKRL.
Cette émission est disponible en balado-diffusion.